de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Chine fournit une aide financière au programme de sécurité nucléaire de l'Ukraine. Pape François appelle à l'égalité des chances pour les femmes. Nations Unies et ASEAN restent les principaux partenaires commerciaux de la Chine. Immigration indique que l'arrivée d'étrangers russes à Bali augmente depuis 2022. Comité de l'ASEAN à Wellington diffuse le message contre la violence domestique à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Commandant de l'armée nationale indonésienne, TNI, rejette l'offre d'aide de la Nouvelle-Zélande. Et Parpani détient la sélection nationale pour les Jeux asiatiques de 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le gouvernement chinois a annoncé mercredi qu'il fournirait une aide financière de 210 000 dollars au programme de sécurité nucléaire de l'Ukraine. Cela a été transmis par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'une conférence de presse à Pékin citée par le quotidien Global Times. Les remarques de Pékin sont intervenues après que Kiev a déclaré que les pourparlers diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia était au point mort, car les combats pour la centrale qui est sous contrôle russe se poursuivent depuis plus d'un an. Dimanche, le ministre ukrainien de l'énergie, Germain Galushchenko, a également déclaré que des rapports des responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, en poste à l'usine indiquaient que la Russie manquait extrêmement de professionnalisme dans la région. Zaporizhia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et la dixième plus grande au monde qui est sous contrôle russe depuis mars 2022. Peu après le début de la guerre d'Ukraine. La crainte d'un holocauste nucléaire continue de hanter au milieu des rapports d'attaques dans la région. Le pape François a condamné mercredi la violence et les préjugés à l'égard des femmes et a déclaré que l'égalité des chances et des récompenses pour les femmes est le moyen de créer un monde plus pacifique et durable. Dans une préface au livre publié par le site Vatican News à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le pape a appelé à l'égalité dans la diversité sur un terrain ouvert à tous les acteurs, tout en reconnaissant qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes. Elle a également brièvement fait allusion à la Journée internationale de la femme lors de son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, mercredi, heure locale, en demandant au public de crier à toutes les femmes parce qu'elles le méritent. Le pape François a dénoncé la discrimination à l'égard des femmes dans le passé, mais comme ses prédécesseurs, il n'a toujours pas été ouvert sur le clergé féminin. Les enseignements de l'Église catholique stipule que seuls les hommes peuvent devenir prêtres parce que Jésus a nommé des hommes comme apôtres. Dans la préface du livre intitulé « Plus de leadership féminin pour un monde meilleur », le pape a déclaré que la pensée des femmes est différente de celle des hommes. Elle a ajouté « Les femmes savent que la douleur qu'elle ressente lors de l'accouchement et d'atteindre un grand bonheur qui est de donner la vie et d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est pourquoi les femmes veulent toujours la paix. Le pape a déclaré que les femmes devraient gagner un salaire égal à celui des hommes si leur travail est égal et que l'écart salarial entre les sexes est une grande injustice. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, reste le plus grand partenaire commercial de la Chine, avec un niveau de commerce bilatéral atteignant 951,9 milliards de yuan, en hausse de 9,6% sur un an. Selon Compass.id, ce montant représentait 15,4% du commerce extérieur de la Chine. Après l'ASEAN, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial de la Chine avec un niveau d'échanges bilatéraux de 851,1 milliards de yuan. Contrairement à l'ASEAN qui a augmenté le commerce avec l'Union européenne, en fait chuter de 2,6%. Ce ne sont pas seulement les échanges avec l'Union européenne qui ont chuté, mais aussi avec les États-Unis. Le commerce entre la Chine et les États-Unis a chuté de 10,6%, un glissement annuel, et n'a atteint que 101,2 milliards de dollars. Les dernières données sur le commerce extérieur de la Chine ont été obtenues à partir d'un rapport de l'Administration générale des douanes GAC publié par l'agence de presse Xinhua mardi 7 mars 2023. À partir de ces données, il a été généralement indiqué que les exportations de produits chinois ont augmenté de 0,9%, un glissement annuel en cours des deux premiers mois, de janvier à février, pour atteindre 506,10 milliards de dollars américains. Le chef de la division de l'immigration du Bureau régional du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de la République d'Indonésie, à Bali, Baron Ihsan, a déclaré que l'arrivée de citoyens russes à Bali en moyenne a continué d'augmenter au cours de la dernière année de 2022 à février 2023. Il a déclaré que le plus grand nombre d'arrivées en janvier 2023 jusqu'à 22 703 personnes. Baron, lors d'une conférence de presse au bureau de l'immigration de Denpasar mercredi 8 mars, a expliqué qu'en avril 2022, le gouvernement indonésien commencera à inclure la Russie et l'Ukraine dans la liste des pays dont les citoyens peuvent venir en Indonésie en utilisant la visite à l'arrivée facilitée de visa, comme stipulé dans la lettre circulaire du directeur général de l'immigration en 2022. Cependant, cette politique n'est valable qu'à partir du 30 mai 2022. Sur son site officiel, l'immigration indique qu'un visa de visite à l'arrivée peut être utilisé par les ressortissants étrangers pour 6 types d'activités, à savoir les visites touristiques, les visites en mission gouvernementale, les visites pour des entretiens d'affaires, les visites pour acheter des biens, les visites pour des réunions de travail et le transit. L'ambassadrice indonésienne en Nouvelle-Zélande, Fienche Mariche Suebu, a déclaré qu'au sein de l'ASEAN, divers mécanismes et plateformes ont été créés pour lutter contre la violence domestique, notamment le Comité de l'ASEAN pour les femmes et la Commission de l'ASEAN pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Une collaboration avec divers parties prenantes à différents niveaux a été menée, y compris une collaboration avec l'ONU Femmes, qui a produit l'ASEAN Gender Outlook et des rapports qui sont des lignes directrices importantes sur la question de la violence domestique. L'ambassadrice Fienche, dans son allocution lors du séminaire dit non à la violence domestique, qui s'est tenu le mercredi 8 mars 2023 à l'ambassade royale de Thaïlande à Wellington, a souligné l'importance d'une action conjointe pour identifier les forces, les défis et apprendre d'un à l'autre pour surmonter les principaux problèmes de violences domestiques et de violences à l'égard des femmes. Le séminaire dit non à la violence domestique est une initiative du comité de l'ASEAN à Wellington qui est soutenue par le Cercle des femmes de l'ASEAN à Wellington en commémoration de la Journée internationale de la femme qui tombe le 8 mars. Le commandant de l'armée nationale indonésienne TNI, l'amiral Yudo Margono, a déclaré que son parti avait refusé une offre d'assistance de la Nouvelle-Zélande concernant la recherche du pilote de Susi Air qui était retenu en otage par le groupe criminel armé KKB, dirigé par Egyanus Kogoya. Cela a été transmis par Yudo au siège de la marine de Jakarta mercredi dans le cadre de sa rencontre avec l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Indonésie, Kevin Jeffrey Burnett, au siège de Cilangkap TNI à Jakarta vendredi 3 mars. La rencontre, a-t-il dit, s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Yudo a révélé que l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande avait soumis tous les processus de recherche et de sauvetage de ses citoyens au gouvernement indonésien. Concernant l'offre d'assistance, Yudo a déclaré avoir expliqué à l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande que le gouvernement indonésien, en particulier l'armée nationale indonésienne TNI et la police indonésienne Polri, poursuivaient leurs efforts pour mener une recherche. Auparavant, lundi 27 février, le commandant militaire de Cendrawasih du 7, le général de division Mohamed Saleh Mustafa, avait déclaré que jusqu'à présent, la TNI et la Polri continuaient d'essayer de libérer le pilote de Susi Air des mains du KKB dirigé par Egyanus Kogoya. Le pilote Philippe, qui transportait l'avion Pilatus appartenant à Susi Air, est retenu en otage par le KKB depuis mardi 7 février, après avoir mis le feu à l'avion sur l'aérodrome de Paro Ndunga dans les montagnes de Papouasie. Le comité central de l'Association indonésienne de tir à l'arc, PP Perpani, a organisé la deuxième phase de la section nationale pour affronter les 19/2023 Jeux asiatiques à Hangzhou, Chine et les 23/2024 qualifications olympiques à Paris, France. Abdul Razak, vice-président du PP Parpani 2, développement et réalisation qui est également président du comité national de sélection, a déclaré au terrain de tir à l'arc GBK mercredi que la deuxième phase de la sélection nationale a duré 3 jours au terrain de tir à l'arc Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mercredi, vendredi, 8 jusqu'à 10 mars. À partir de cette deuxième phase de la sélection nationale, a poursuivi Razak, Pepe Parpani recrutera 6 athlètes masculins et féminins chacun pour le composer. Lorsque l'arc classique recherche 3 athlètes masculins et 4 athlètes féminines, considérant que 5 athlètes de cette discipline ont été confirmés pour entrer au Centre national d'entraînement. Il s'agit de Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiadi et Arif Dui Pangestu pour le secteur masculin, ainsi que Diananda Khairunisa et Reza Octavia pour le secteur féminin. Sur les 24 athlètes qui passeront plus tard le stade 2, ils se réduiront à ces athlètes. Pepe Parpani a organisé plusieurs étapes dans la sélection nationale pour trouver les meilleurs athlètes. La phase 1 a été réalisée les 21 et 22 février. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et en pour le titre, l'ambassadeur espère que la collaboration entre IPB et SPAOA du Japon aidera l'agriculture indonésienne. L'ambassadeur d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, espère que la coopération entre l'Institut agricole de Bogor, IPB, et l'Université professionnelle d'agriculture de Shizuoka, SPAOA, pourra contribuer à faire de l'agriculture le principal moteur de l'économie indonésienne. L'ambassadeur Heri à Tokyo dimanche a espéré que la collaboration entre IPB et la SPUA pourrait produire des ressources humaines dotées de compétences pratiquées et capables de stimuler l'agriculture en tant que moteur principal de l'économie indonésienne à l'avenir et d'améliorer la qualité et de la quantité des exportations de produits agricoles de l'Indonésie vers le Japon. Cette coopération s'est concrétisée par la signature d'un protocole d'accord sur l'enseignement professionnel agricole entre le recteur de l'IPB, Arif Satria, et le recteur de la SPUA, Sigeiko Suzuki. Dans le protocole d'accord, les deux parties ont convenu de coopérer à la mise en œuvre d'un programme de formation professionnelle en agriculture au sens large. Cette collaboration comprend l'échange d'enseignants et d'étudiants, l'organisation de programmes d'éducation et de formation, ainsi que la recherche et le développement conjoint. Selon l'ambassadeur Harry Ahmadi, la coopération est stratégique car elle peut ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement de l'enseignement et de la recherche dans l'agriculture et la foresterie entre l'Indonésie et le Japon. Arif Satria et Sigeiko Suzuki ont tous deux exprimé leur gratitude pour le soutien de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo lors de la signature du protocole d'accord et espèrent qu'il apportera de grands avantages aux deux parties. À la même occasion, l'attaché à l'éducation et à la culture de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, Yusli Wardiatno, a déclaré que cette collaboration faisait suite à la visite de travail de l'ambassadeur Harry Ahmadi à l'Université professionnelle d'agriculture de Shizuoka, SPUA, en décembre 2022. SPUA est une nouvelle université au Japon avec un programme de premier cycle dont l'orientation du programme se concentre sur 70% de pratique et 30% de théorie, de sorte qu'elle convient à la collaboration avec l'IPB qui possède une école professionnelle. Ces auditeurs, c'était la Quai diplomatique pour ce soir. Ces auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 mars 1976, l'accident du téléphérique de Cavales en Italie. L'accident de téléphérique de Cavales a été l'accident de téléphérique le plus meurtrier de l'histoire le 9 mars 1976. Dans l'accident, 43 passagers sont morts. La cause de l'accident était un câble de support en acier cassé lorsque le téléphérique à pleine charge est descendu du mont Cermis près de la station de ski d'Italie Cavales dans les Dolomites à 40 km au nord-est de Trento. Passons maintenant à l'événement du 9 mars 1978, la route à piège de Jagorawi a été inaugurée. La route à piège de Jagorawi est la première route à piège en Indonésie qui a été construite en 1973 reliant Jakarta, Bogor, Ciawi. Cette route à piège d'environ 50 km de long a été inaugurée par le président Suharto le 9 mars 1978. La route à piège est la première à être financée par le budget de l'État à partir de prêts étrangers. Ensuite, la gestion a été confiée à Jasa Marga Société Anonyme en tant que capital initial de la société et l'investissement du gouvernement. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement du 9 mars, la fête nationale de la musique. La journée nationale de la musique est commémorée chaque 9 mars. C'est un élan pour l'appréciation de la musique en Indonésie. Le 9 mars est désigné comme la commémoration de la journée nationale de la musique en référence à l'anniversaire de Wage Rudolf Supratman le 9 mars 1903. Il était un enseignant, journaliste, violiste et compositeur qui a composé l'hymne national indonésien, Indonésia Raya. La Journée nationale de la musique a été inaugurée en 2013 par le 6e président Susilo Bambang Yudhoyono par le décret présidentiel numéro 10-2013. C'est Zorita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. We'll be right back.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « La BNPB prépare une simulation de gestion des catastrophes de l'ASEAN à Bantul ». L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, prévoit d'organiser l'exercice de simulation d'intervention d'urgence en cas de catastrophe régionale de l'ASEAN ou ARDEX ou simulation de gestion des catastrophes avec les pays de l'ASEAN dans la région de Bantul, région spéciale de Yogyakarta. Le secrétaire principal de BNPB, Lili Kurniawan, a déclaré mercredi, après qu'une audience avec la région de Bantul à Bantul, que l'exercice ou la simulation de gestion des catastrophes au niveau de l'ASEAN devrait se tenir du 31 juillet au 3 août 2023 sur le terrain à l'extérieur de la zone du stade Sultan Agung, la région de Bantul. Lili expliquait que Bantul a été choisi parce qu'il répondait aux exigences d'une capacité de 3000 volontaires en cas de catastrophe. En dehors de cela, selon lui, le programme de villages résilients aux catastrophes existe également dans presque tous les villages ou sous-districts de Bantul, de sorte que ce grand programme est également un exercice de commémoration du 17e anniversaire du tremblement de terre de Bantul survenu en 2006. Il a également déclaré qu'actuellement, Bantul dispose déjà d'un plan d'urgence qui sera testé ensemble. Lili a en outre expliqué que BNPB invitera également les pays partenaires de l'Indonésie dans la gestion des catastrophes tels que l'Australie, l'Amérique, le Japon, la Suisse et d'autres pays. En outre, BNPB invite également d'autres régions à apprendre les unes des autres en tant qu'observateurs. En outre, a-t-il dit, l'équipe de planification de BNPB avait travaillé pour concevoir le type d'activité pendant les 4 jours d'exercice de gestion des catastrophes qui serait bien sûr plus tard ajusté au plan d'urgence qui avait été élaboré. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bahagia, kau bawa berlayar dengan kamu di samudra luas biru. Perahu berlayar, ku bersamamu, jelajahi dunia dengan cintamu. Ku sanggup janin mahkoda bila kau di sisiku. Arahku berjalan jadi pasti karenamu. Wanginya bunga seperti cinta kasih, cintamu sejukkan diriku. Kau bawa aku bahagia, kau bawa aku damai. Ku berlayar dengan kamu samudra luas biru. Perahu berlayar, arungi samudra. Itulah cinta kita, takkan terhalangkan walau badai gelombang mencoba halangi kita. Ku kan bisa
C'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Sezerita, Salatiga est une ville de la province de Jawa Central. La zone est bordée par Semarang et Solo. Cela rend l'accès à Salatiga assez facile, de sorte que de nombreuses personnes viennent dans cette ville pour faire du tourisme. Lors d'une visite culinaire à Salatiga, il existe divers plats spéciaux qui sont le pilier de la ville de Salatiga, y compris le satay de bœuf au porc de canard, le soto esto, gecho de Sèvres, la ronde sekoton, le gepuk est le plat emblématique de Solo de Salatiga, tumpang koyor. Cette fois, nous allons vous présenter l'une des spécialités de Salatiga, à savoir le gecok de Sèvres. On pense que le mot gecok est une abréviation de geget et kecokot, ce qui signifie que vous devez mordre quand vous le mangez. Cela fait référence à la garniture de gecok qui contient des côtes, de la viande et des entrailles de Sèvres. Cet aliment est cuisiné avec 25 épices et assaisonnement et de blindo ou de la noix de coco rôti. Gecho est largement vendu dans la région de Java centrale. Ce plat de la soupe de chèvre est l'un des plats préférés des habitants de Salatiga. Ce plat était introduit dans les années 1940. Initialement, le gecho était connu comme un médicament à base de plantes qui était généralement bu pour traiter la fatigue. La combinaison des saveurs épicées du poivre et du piment javanais a un effet chaud sur le corps, facilite la transpiration et rend le corps frais. Lorsqu'elle est consommée, la texture de la sauce gecho est légèrement rugueuse ou granuleuse. La texture rugueuse est obtenue à partir de noix de coco râpées, torréfiées, qui est ajoutée pour renforcer le goût savoureux et donne un arôme délicieux. Chers auditeurs, lorsque vous le mangez, vous pouvez immédiatement sentir l'arôme des épices gecho. Le bouillon lui-même est jaune foncé. Lorsqu'ils sont consommés, le goût épicé des épices se fait sentir. À Salatiga, vous pouvez facilement trouver cette nourriture. Le prix est également relativement abordable de 25 000 rupiah à 30 000 rupiah par portion. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Intitulé Le ministère du Tourisme et de l'économie créative a lancé le programme Baparekraf for Startup 2023 pour renforcer la naissance de start-up numériques de qualité. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative a lancé le programme Baparekraf for Startup 2023 pour augmenter le nombre de start-up numériques de qualité dans le pays afin qu'elles puissent renforcer la relance économique et créer des opportunités d'emploi. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, dans kick-off Baparekraf for Startup 2023, le 2 mars 2023, a déclaré que le ministère s'engage à construire un meilleur écosystème de start-up numériques afin qu'ils produisent des start-up numériques de qualité. Selon lui, Baparekraf for Startup 2023 est un espace permettant aux start-up numériques d'augmenter leurs capacités avec les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer une entreprise en démarrage. Il espère également que par ce programme, les acteurs du tourisme et de l'économie créative, notamment les start-up, pourront jouer un rôle dans la création de solutions innovantes et modernes. Afin de soutenir et d'encourager l'écosystème de start-up numérique indonésien à réaliser l'optimisme économique national en 2023. À Baparekraf for Startup 2023, les participants ont eu l'opportunité de participer à un bootcamp avec des mentors professionnels et une assistance pour aider à surmonter les problèmes rencontrés par les fondateurs de startup et de participer à une journée de démonstration. Dans Baparekraf for Startup 2023, il est prévu que 24 startup puissent participer à l'incubation pendant 3 mois avec du matériel de formation complet. Après avoir participé à la formation, on espère qu'il y aura un impact direct sur les startups et la plus large communauté. Le sous-ministre de l'économie numérique et des produits créatifs du ministère du Tourisme et de l'économie créative, M. Muhammad Nel El Himam, a déclaré que ce programme fournirait un apprentissage selon un programme testé et soutenu par des mentors expérimentés et des experts de l'industrie indonésienne des start-up. Depuis 2020, Baparekraf for Start-up a facilité 300 start-up de différents niveaux et ils ont réussi à augmenter le taux de survie moyen de la start-up à 58%, ce qui est supérieur à la start-up moyenne, qui n'est que 10%, peut durer plus de 3 ans. Le participant moyen qui a participé à Baparekraf for Start-up affiche également une croissance de revenus de 256% et une croissance de la clientèle de 246% en 1 à 2 ans. Cela prouve que grâce à ce programme, les participants ont la possibilité d'augmenter l'échelle de leur entreprise. Les inscriptions au programme Baparekraf for Startup 2023 sont officiellement ouvertes du 2 au 21 mars 2023. Pour socialiser ce programme, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative organisera également des roadshows dans trois villes, à savoir Bandung, Semarang et Surabaya. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi, Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Titi Dwijayanti intitulée Bahasa Kalbu. Chers auditeurs, Titi Dwijayanti, ou mieux connu sous le nom de Titi DJ, a commencé à entrer dans le monde du chant indonésien depuis 1984. En 1999, elle sort son huitième album intitulé Bahasa Kalbu. La chanson principale de cet album est Bahasa Kalbu et a été un succès et c'est devenu la bande originale de deux feuilletons intitulés Cinta en 1999 et Saat Hati Telah Memilih en 2018. La popularité de cette chanson a poussé de jeunes musiciens à la rééditer avec une version moderne comme Marcel Siahan en 2013. Pendant ce temps, en 2020, la soliste Raissa avec le compositeur Andy Rianto, l'un des créateurs de la chanson Bahasa Kalbu, a également réassorti cette chanson dans une version orchestrale. Bon, chers auditeurs, voici Titi Dwi Jayanti va chanter une chanson intitulée Bahasa Kalbu. Bonne écoute.
Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan kini dirimu yang selalu bertahta di benakku dan aku kan mengiringi bersama di setiap
langkahmu percaya.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.